Voici les choses à peu près dont nous amusions le temps. Et véritablement, ce petit Espagnol avait l'esprit joli. Notre entretien n'était que la nuit, à cause que dès 6 heures du matin jusqu'au soir, la grande foule de monde qui nous venait contempler à notre logis nous eut détournés. D'aucuns nous jetaient des pierres, d'autres des noix, d'autres de l'herbe. Il n'était bruit que des bêtes du roi. On nous servait tous les jours à manger à nos heures, et le roi et la reine prenaient plaisir eux-mêmes, assez souvent, en la peine de me tâter le ventre pour connaître si je n'en plaisais point, car ils brûlaient d'une envie extraordinaire d'avoir de la race de ces petits animaux. Je ne sais si ce fut pour avoir été plus attentif que mon mâle à leur simagrée et à leur ton, tant il y a que j'appris à entendre leur langue et l'écorcher un peu. Aussitôt, les nouvelles coururent par tout le royaume qu'on avait trouvé 2 hommes sauvages, plus petits que les autres à cause des mauvaises nourritures que la solitude nous avait fournies, et qui, par un défaut de la semence de leur père, n'avaient pas les jambes de devant assez fortes pour s'appuyer dessus. Cette créance allait prendre racine à force de cheminer, sans les prêtres du pays qui s'y opposèrent, disant que c'était une impiété épouvantable de croire que non seulement des bêtes, mais des monstres fussent de leur espèce. Il y aurait bien plus d'apparence, ajoutaient les moins passionnés, que nos animaux domestiques participassent au privilège de l'humanité et de l'immortalité par conséquent, à cause qu'ils sont nés dans notre pays, qu'une bête monstrueuse qui se dit née je ne sais où dans la lune. Et puis, considérez la différence qui se remarque entre nous et eux. Nous autres, nous marchons à 4 pieds, parce que Dieu ne se voulut pas fier d'une chose si précieuse à une moins ferme assiette. Il eut peur qu'il arrivât fortune de l'homme. C'est pourquoi il prit lui-même la peine de l'asseoir sur 4 piliers, afin qu'il ne pût tomber. Mais dédaigna de se mêler de la construction de ces 2 brutes. Il les abandonna aux caprices de la nature, laquelle, ne craignant pas la perte de si peu de choses, ne les appuya que sur 2 pattes. « Les oiseaux mêmes, disait-il, n'ont pas été si maltraités qu'elles, car au moins, ils ont reçu des plumes pour subvenir à la faiblesse de leurs pieds et se jeter en l'air quand nous les éconduirions de chez nous. » Au lieu que la nature, en ôtant les 2 pieds à ces monstres, les a mis en état de ne pouvoir échapper à notre justice. Voyez un peu, outre cela, comme ils ont la tête tournée de vers le ciel. C'est la disette où Dieu les a mis de toutes choses qui les a situés de la sorte, car cette posture suppliante témoigne qu'ils cherchent au ciel pour se plaindre à celui qui les a créés, et qu'ils lui demandent permission de s'accommoder de nos restes. Mais nous autres, nous avons la tête penchée en bas pour contempler les biens dont nous sommes seigneurs, et comme n'y ayant rien au ciel à qui notre heureuse condition puisse porter envie. J'entendais tous les jours, à ma loge, les prêtres faire ces conclats ou de semblables. Enfin, ils bridèrent si bien la conscience des peuples sur cet article qu'il fut arrêté que je ne passerai tout au plus que pour un perroquet plumé. Ils confirmaient les persuadés sur ce que non plus qu'un oiseau, je n'avais que 2 pieds. On me mit donc en cage par ordre express du conseil d'en haut. Là, tous les jours, l'oiseleur de la reine prenait le soin de me venir siffler la langue, comme on fait ici au Sansonnet. J'étais heureux, à la vérité, en ce que ma volière ne manquait point de mangeaille. Cependant, parmi les sornettes dont les regardants me rompaient les oreilles, j'appris à parler comme eux. Quand je fus assez rompu dans l'idiome pour exprimer la plupart de mes conceptions, j'en comptais des plus belles. Déjà, les compagnies ne s'entretenaient plus que de la gentillesse de mes bons mots, et l'estime qu'on faisait dans mon esprit vint jusque-là que le clergé fut contraint de faire publier un arrêt par lequel on défendait de croire que j'eusse de la raison avec un commandement très express à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle fût, de s'imaginer, quoi que je puisse faire de spirituel, que c'était l'instinct qui me le faisait faire. Cependant, la définition de ce que j'étais partagea la ville en 2 factions. Le parti qui soutenait en ma faveur grossissait tous les jours. Enfin, en dépit de l'anathème et de l'excommunication des prophètes qui tâchaient par là d'épouvanter le peuple, mes sectateurs demandèrent une assemblée des États pour résoudre cet accroc de religion. On fut longtemps sur le choix de ceux qui opineraient. Mais les arbitres pacifièrent l'animosité par le nombre des intéressés qu'ils égalèrent. On me porta, tout brandi, dans la salle de justice, où je fus sévèrement traité des examinateurs. Ils m'interrogèrent, entre autres choses, de philosophie. Je leur exposai tout à la bonne foi ce que jadis mon régent m'en avait appris. Mais ils ne mirent guère à me le réfuter par beaucoup de raisons très convaincantes à la vérité. Quand je me vis tout à fait convaincu, j'alléguai pour dernier refuge les principes d'Aristote, qui ne me servirent pas davantage que ses sophismes, car, en deux mots, ils m'en découvrirent la fausseté. Aristote, me dirent-ils, accommodait les principes à sa philosophie, au lieu d'accommoder sa philosophie aux principes. Encore, ses principes les devait-il prouver au moins plus raisonnables que ceux des autres sectes, ce qu'il n'a pu faire. C'est pourquoi le bonhomme ne se trouvera pas mauvais si nous lui baisons les mains. Enfin, comme ils virent que je ne leur clabaudais autre chose, sinon qu'ils n'étaient pas plus savants qu'Aristote, et qu'on m'avait défendu de discuter contre ceux qui niaient les principes, ils conclurent tous, d'une commune voix, que je n'étais pas un homme, mais possible quelque espèce d'autruche, vu que je portais comme elle la tête droite. De sorte qu'il fut ordonné à l'oiseleur de me reporter en cage. J'y passai mon temps avec assez de plaisir, car, à cause de leur langue que je possédais correctement, toute la cour se divertissait à me faire jaser. Les filles de la reine, entre autres, fourraient toujours quelques bribes dans mon panier. Et la plus gentille de toutes avait conçu quelque amitié pour moi. Elle était si transportée de joie lorsque, étant en secret, je lui découvrais les mystères de notre religion, et principalement quand je lui parlais de nos cloches et de nos reliques, qu'elle me protestait, les larmes aux yeux, que si jamais je me trouvais en état de revoler à notre monde, elle me suivrait de bon cœur. Un jour de grand matin, je m'éveillai en sursaut. Je la vis qui tambourinait contre les bâtons de ma cage. « Réjouissez-vous !» me dit-elle. « Hier, dans le conseil, on conclut la guerre contre le grand roi Touloudoum. J'espère, parmi l'embarras des préparatifs, cependant, que notre monarque et ses sujets seront éloignés, faire naître l'occasion de vous sauver. « Comment la guerre ?» l'interrompis-je aussitôt. « Arrive-t-il des querelles entre les princes de ce monde ici comme entre ceux d'une autre ?»« Et je vous prie, exposez-moi leur façon de combattre. » Quand les arbitres, reprit-elle, élus au gré des deux parties, ont désigné le temps accordé pour l'armement, celui de la marche, le nombre des combattants, le jour et le lieu de la bataille, et tout cela avec tant d'égalité qu'il n'y a pas dans une armée un seul homme plus que dans l'autre, les soldats estropiés d'un côté sont tous enrôlés dans une compagnie. Et lorsqu'on en vient aux mains, les maréchaux de camp ont soin de les opposer aux estropiés de l'autre côté. Les géants ont en tête les colosses, les escrimeurs, les adroits, les vaillants, les courageux, les débiles, les faibles, les indisposés, les malades, les robustes, les forts. Et si quelqu'un entreprenait de frapper un autre que son ennemi désigné, à moins qu'il pût justifier que c'était par méprise, il est condamné de couard. Après la bataille donnée, on compte les blessés, les morts, les prisonniers. Car pour de fuyards, il ne s'en voit point. Si les pertes se trouvent égales de part et d'autre, ils tirent à la courte paille à qui se proclamera victorieux. Mais encore qu'un roi eût défait son ennemi de bonne guerre, ce n'est encore rien fait. Car il y a d'autres armées peu nombreuses de savants et d'hommes d'esprit, des disputes desquelles dépend entièrement le vrai triomphe ou la servitude des États. Un savant est opposé à un autre savant, un spirituel à un autre spirituel, et un judicieux à un autre judicieux. Au reste, le triomphe que remporte un État en cette façon est compté pour 3 victoires à force ouverte. La nation proclamée victorieuse au rôle assemblée, et le peuple vainqueur choisi pour être son roi, ou celui des ennemis, ou le sien. Je ne pus m'empêcher de rire de cette façon scrupuleuse de donner des batailles, et j'alléguai pour exemple d'une bien plus forte politique les coutumes de notre Europe, où le monarque n'avait garde d'omettre aucun de ses avantages pour vaincre. Et voici comme elle me parla. « Apprenez-moi, me dit-elle, vos princes ne prétextent-ils leurs armements que du droit de force ?»« Si fait, lui répliquai-je, de la justice de leur cause. »« Pourquoi donc, continua-t-elle, ne choisissent-ils des arbitres non suspects pour être accordés ?»« Et s'il se trouve qu'ils aient autant de droits l'un que l'autre, qu'ils demeurent comme ils étaient, ou qu'ils jouent en un sang de piquet la ville ou la province dont ils sont en dispute ?» Et cependant qu'ils font casser la tête à plus de 4 millions d'hommes qui valent mieux qu'eux, ils sont dans leur cabinet à gueguenarder sur les circonstances du massacre de ces badauds. Mais je me trompe de blâmer ainsi la vaillance de vos braves gens. Ils font bien de mourir pour leur patrie. L'affaire est importante, car il s'agit d'être le vassal d'un roi qui porte une fraise ou de celui qui porte un rabat. Mais vous, lui repartis-je, Pourquoi toutes ces circonstances à votre façon de combattre? Ne suffit-il pas que les armées soient pareilles au nombre d'hommes? Vous n'avez guère de jugement, me répondit-elle. Croyez-vous, par votre foi, ayant vaincu sur le pré votre ennemi seul à seul, l'avoir vaincu de bonne guerre? Si vous étiez maillé et lui non? S'il n'avait qu'un poignard et vous une estocade? Enfin, s'il était manchot et que vous eussiez deux bras? Cependant, avec toute l'égalité que vous recommandez tant à vos gladiateurs, ils ne se battent jamais pareil, car l'un sera de grande, l'autre de petite taille, l'un sera adroit, l'autre n'aura jamais manié d'épée, l'un sera robuste, l'autre faible, et quand même ces disproportions seraient égalées, qu'ils seraient aussi grands, aussi adroits et aussi forts l'un que l'autre, encore ne serait-il pas pareil, car l'un des deux aura peut-être plus de courage que l'autre, et sous ombre que ce brutal ne considérera pas le péril, qu'il sera bilieux et qu'il aura plus de sang, qu'il aura le cœur plus serré, avec toutes ces qualités qui font le courage, comme si ce n'était pas aussi bien qu'une épée une arme que son ennemi n'a point, il s'ingère de se ruer éperdument sur lui, de l'effrayer et d'ôter la vie à ce pauvre homme qui prévoit le danger, dont la chaleur est étouffée dans la pituite, de qui le cœur est trop vaste pour unir les esprits nécessaires à dissiper cette glace qu'on nomme poltronnerie. Ainsi, vous louez cet homme d'avoir tué son ennemi avec avantage, et le louant de hardiesse, vous le louez d'un péché contre nature, puisque la hardiesse tend à sa destruction. Vous saurez qu'il y a quelques années qu'on fit une remontrance au conseil de guerre pour apporter un règlement plus circonspect et plus consciencieux dans les combats, car le philosophe qui donnait la vie parlait ainsi. Vous vous imaginez, messieurs, avoir bien égalé les avantages des deux ennemis quand vous les avez choisis tous deux raides, tous deux grands, tous deux adroits, tous deux pleins de courage. Mais ce n'est pas encore assez, puisqu'il faut enfin que le vainqueur surmonte par adresse, par force ou par fortune. Si ça a été par adresse, il a frappé sans doute son adversaire par un endroit où il ne l'attendait pas, ou plus vite qu'il n'était vraisemblable, ou, feignant de l'attaquer d'un côté, il l'a assailli de l'autre. Tout cela, c'est affiner, c'est tromper, c'est trahir. Or, la finesse, la tromperie, la trahison ne doivent pas faire l'estime d'un véritable généreux. S'il a triomphé par force, estimerez-vous son ennemi vaincu puisqu'il a été violenté? Non, sans doute, non plus que vous ne direz pas qu'un homme ait perdu la victoire, encore qu'il soit accablé de la chute d'une montagne parce qu'il n'a pas été en puissance de la gagner. Tout de même, celui-là n'a point été surmonté à cause qu'il ne s'est pas trouvé dans ce moment disposé à pouvoir résister aux violences de son adversaire. Si ça a été par hasard qu'il a terrassé son ennemi, c'est la fortune et non pas lui que l'on doit couronner. Il n'y a rien contribué. Et enfin, le vaincu n'est non plus blâmable que le joueur de dés qui, sur 17 points, en voit faire 18. On lui confessa qu'il avait raison, mais qu'il était impossible, selon les apparences humaines, d'y mettre ordre, et qu'il valait mieux subir un petit inconvénient que de s'abandonner à 1000 de plus grande importance. Elle ne m'entrainte pas cette fois davantage, parce qu'elle craignait d'être trouvée toute seule avec moi et si matin. Ce n'est pas qu'en ce pays l'impudicité soit un crime. Au contraire. Or, les coupables convaincus, tout homme a pouvoir sur toute femme. Et une femme, tout de même, pourrait appeler un homme en justice qu'il aurait refusé. Mais elle ne m'osait pas fréquenter publiquement à ce qu'elle me dit, à cause que les prêtres avaient prêché au dernier sacrifice que c'était les femmes principalement qui publiaient que j'étais homme, afin de couvrir sous ce prétexte le désir exécrable qui les brûlait de se mêler aux bêtes, et de commettre avec moi sans vergogne des péchés contre nature. Cela fut cause que je demeurai longtemps sans la voir, ni pas une du sexe. Cependant, il fallait bien que quelqu'un eût réchauffé les querelles de la définition de mon être, car, comme je ne songeais plus qu'à mourir en cage, on me vint quérir encore une fois pour me donner audience. Je fus donc interrogé, en présence de force courtisans, sur quelques points de physique, et mes réponses, à ce que je crois, satisfirent aucunement. Car d'un accent non magistral, celui qui présidait m'exposa fort au long ses opinions sur la structure du monde. Elles me semblèrent ingénieuses, et sans qu'il passât jusqu'à son origine qu'il soutenait éternelle, j'eusse trouvé sa philosophie beaucoup plus raisonnable que la nôtre. Mais sitôt que je l'entendis soutenir une rêverie si contraire à ce que la foi nous apprend, je lui demandai ce qu'il pourrait répondre à l'autorité de Moïse et que ce grand patriarche avait dit expressément que Dieu l'avait créé en 6 jours. Cet ignorant ne fit que rire au lieu de me répondre. Je ne pus alors m'empêcher de lui dire que, puisqu'il en venait là, je commençais à croire que leur monde n'était qu'une lune. Mais, me dirent-ils tous, Vous y voyez de la terre, des forêts, des rivières, des mers. Que serait-ce donc tout cela ? N'importe, répartis-je. Aristote assure que ce n'est que la lune. Si vous aviez dit le contraire dans les classes où j'ai fait mes études, on vous aurait sifflé. Il se fit sur cela un grand éclat de rire. Il ne faut pas demander si ce fut de leur ignorance, et l'on me reconduisit dans ma cage. Les prêtres, cependant, furent avertis que j'avais osé dire que la lune était un monde dont je venais, et que leur monde n'était qu'une lune. Ils crurent que cela leur fournissait un prétexte assez juste pour me faire condamner à l'eau. C'était la façon d'exterminer les athées. Ils vont encore, à cette fin, faire leur plainte au roi qui leur promet justice. On ordonne que je serai remis sur la sellette. Me voilà donc décagé pour la troisième fois. Le grand pontife prit la parole et plaida contre moi. Je ne me souviens pas de sa harangue à cause que j'étais trop épouvanté pour recevoir les espèces de la voix sans désordre, et parce aussi qu'il s'était servi pour déclamer d'un instrument dont le bruit m'étourdissait. C'était une trompette qu'il avait tout exprès choisie afin que la violence de ce ton martial échauffât leurs esprits à ma mort, et afin d'empêcher par cette émotion que le raisonnement ne pût faire son office. Comme il arrive dans nos armées où ce tintamarre de trompettes et de tambours empêche le soldat de réfléchir sur l'importance de sa vie. Quand il eut dit, je me levai pour défendre ma cause, mais j'en fus délivré de la peine par une aventure que vous allez entendre. Comme j'avais déjà la bouche ouverte, un homme, qui avait eu grande difficulté à traverser la foule, vint choir au pied du roi et se traîna longtemps sur le dos. Cette façon de faire ne me surprit pas, car je savais bien dès longtemps que c'était la posture où il se mettait quand il voulait discourir en public. Je rengainai seulement ma harangue, et voici celle que nous eûmes de lui. « Juste, écoutez-moi. Vous ne sauriez condamner cet homme, ce singe ou ce perroquet, pour avoir dit que la lune est un monde d'où il venait. Car s'il est homme, quand même il ne serait pas venu de la lune, puisque tout homme est libre. Ne lui est-il pas libre de s'imaginer ce qu'il voudra ? Quoi ? Pouvez-vous le contraindre à n'avoir que vos visions ? Vous le forcerez bien à dire qu'il croit que la lune n'est pas un monde, mais il ne le croira pas pourtant. Car pour croire quelque chose, il faut qu'il se présente à son imagination certaines possibilités plus grandes, oui, qu'au nom de cette chose. Ainsi, à moins que vous ne lui fournissiez ce vraisemblable, ou qu'il n'y vienne de soi-même s'offrir à son esprit, il vous dira bien qu'il croit, mais il ne croira pas pour cela. J'ai maintenant à vous prouver qu'il ne doit pas être condamné si vous le posez dans la catégorie des bêtes. Car supposez qu'il soit animal sans raison. Quelle raison vous-même avez-vous de l'accuser d'avoir péché contre elle ? Il a dit que la lune était un monde. Or les brutes n'agissent que par un instinct de nature. Donc c'est la nature qui le dit et non pas lui. De croire maintenant que cette savante nature qui a fait et la lune et ce monde-ci ne sache elle-même ce que c'est, et que vous autres, qui n'avez de connaissance que ce que vous en donnez d'elle, le sachiez plus certainement, cela serait bien ridicule. Mais quand même la passion vous faisant renoncer à vos premiers principes, vous supposeriez que la nature ne guida point les brutes, ou j'y sais à tout le moins les inquiétudes que vous causent les cabrioles d'une bête. En vérité, messieurs, si vous rencontriez un homme d'âge mûr qui veillât à la police d'une fourmilière, pour tantôt donner un soufflet à la fourmi qui aurait fait choir sa campagne, tantôt en emprisonner une qui aurait dérobé à sa voisine un grain de blé, tantôt mettre en justice une autre qui aurait abandonné ses œufs. Ne l'estimeriez-vous pas insensé de vaquer à des choses trop au-dessous de lui et de prétendre assujettir à la raison les animaux qui n'en ont pas l'usage ? Comment donc, vénérable pontife, appellerez-vous l'intérêt que vous prenez aux cabrioles de ce petit animal ? Juste, j'ai dit. Dès qu'il eut achevé, une forte musique d'applaudissements fit retentir toute la salle. Et après que les opinions eurent été débattues un gros quart d'heure, voici ce que le roi prononça. « Que dorénavant je serai censé, homme, comme tel mis en liberté, et que la punition d'être noyé serait modifiée en une amende honteuse, car il n'en est point en ce pays-là d'honorable, dans laquelle amende, je me dédierai publiquement d'avoir enseigné que la lune était un monde. » Et ce, à cause du scandale que la nouveauté de cette opinion aurait pu causer dans l'âme des faibles. Cet arrêt prononcé, on m'enlève hors du palais, on m'habille par ignominie fort magnifiquement, on me porte sur la tribune d'un superbe chariot, et, traîné que je fus par quatre princes qu'on avait attachés aux joues, Voici ce qu'ils m'obligèrent de prononcer à tous les carrefours de la ville. « Peuple, je vous déclare que cette lune ici n'est pas une lune, mais un monde, et que ce monde de là-bas n'est point un monde, mais une lune. Tel est ce que les prêtres trouvent bon que vous croyez. » Après que j'eus crié la même chose aux 5 grandes places de la cité, j'aperçus mon avocat qui me tendait la main pour m'aider à descendre. Je fus bien étonné de reconnaître, quand je l'eus envisagé, que c'était mon ancien démon. Nous fûmes 1 heure à nous embrasser. « Eh, venez-vous-en, me dit-il, chez moi, car de retourner en cour après une amende honteuse, vous n'y seriez pas vu de bon œil. Au reste, il faut que je vous dise que vous seriez encore avec les singes, aussi bien que l'Espagnol, votre compagnon, si je n'eusse publié dans les compagnies la vigueur et la force de votre esprit, et brigué contre les prophètes en votre faveur la protection des grands. » La fin de mes remerciements nous fit entrer chez lui. Il m'entretint jusqu'au rebas des ressorts qu'il avait fait jouer pour contraindre les prêtres, malgré tous les plus spécieux scrupules dont ils avaient embabouiné la conscience du peuple de lui permettre de mouir. Nous étions assis devant un grand feu, à cause que la saison était froide. Il allait poursuivre à me raconter, je pense, ce qu'il avait fait pendant que je ne l'avais point vu, mais on nous vint dire que le souper était prêt. « J'ai prié, continuait-il, pour ce soir, 2 professeurs d'académie de cette ville de venir manger avec nous. Je les ferai tomber sur la philosophie qu'ils enseignent en ce monde-ci, par même moyen, vous verrez le fils de mon hôte. C'est un jeune homme autant plein d'esprit que j'en ai jamais rencontré, et ce serait un second Socrate s'il pouvait régler ses lumières et ne point étouffer dans le vice les grâces dont Dieu continuellement le visite, et ne plus affecter l'impiété par ostentation. Je me suis logé séant pour épier les occasions de l'instruire. Il se tut, comme pour me laisser à mon tour la liberté de discourir, puis il fit signe qu'on me dévêtit les honteux ornements dont j'étais encore tout brillant. Les 2 professeurs que nous attendions entrèrent presque aussitôt. Nous fûmes tous 4 ensemble dans le cabinet du souper où nous trouvâmes ce jeune garçon dont il m'avait parlé qui mangeait déjà. Ils lui firent de grandes salades et le traitèrent d'un respect aussi profond que d'esclave à seigneur. J'en demandai la cause à mon démon, qui me répondit que c'était à cause de son âge, parce qu'en ce monde-là, les vieux rendaient toutes sortes d'honneurs et de déférences aux jeunes. Bien plus que les pères obéissaient à leurs enfants aussitôt que, par l'avis du Sénat des philosophes, ils avaient atteint l'usage de raison. « Vous vous étonnez, continua-t-il, d'une coutume si contraire à celle de votre pays ? Elle ne répugne point toutefois à la droite raison. Car en conscience, dites-moi, quand un homme jeune et chaud est en force d'imaginer, de juger et d'exécuter, n'est-il pas plus capable de gouverner une famille qu'un infirme sexagénaire ? Ce pauvre hébété, dont la neige de 60 hivers a glacé l'imagination, se conduit sur l'exemple des heureux succès. Et cependant, c'est la fortune qui les a rendus tels contre toutes les règles et toute l'économie de la prudence humaine. Pour du jugement, il en a aussi peu, quoique le vulgaire de votre monde en fasse un apanage à la vieillesse. Et pour le désabuser, il faut qu'il sache que ce qu'on appelle en un vieillard prudence n'est qu'une appréhension panique, une peur enragée de rien entreprendre qui l'obsède. Ainsi, mon fils, quand il n'a pas risqué un danger où un jeune homme s'est perdu, ce n'est pas qu'il en préjugea la catastrophe, mais il n'avait pas assez de feu pour allumer ces nobles élans qui nous font oser, et l'audace en ce jeune homme était un gage de la réussite de son dessein, parce que cette ardeur qui fait la promptitude et la facilité d'une exécution était celle qui le poussait à l'entreprendre. Pour ce qui est d'exécuter, je ferai tort à votre esprit de m'efforcer à le convaincre de preuve. Vous savez que la jeunesse seule est propre à l'action. Et si vous n'en êtes pas tout à fait persuadé, dites-moi, je vous prie, quand vous respectez un homme courageux, n'est-ce pas à cause qu'il vous peut venger de vos ennemis ou de vos oppresseurs ? Pourquoi donc le considérez-vous encore, si ce n'est par habitude, quand un bataillon de 70 janvier a gelé son sang et tué de froid tous les nobles enthousiasmes dont les jeunes personnes sont échauffées pour la justice. Lorsque vous déférez au fort, n'est-ce pas afin qu'il vous soit obligé d'une victoire que vous ne lui seriez disputée ? Pourquoi donc vous soumettre à lui, quand la paresse a fondu ses muscles, débilité ses artères, évaporé ses esprits et sucé la moelle de ses os ? Si vous adoriez une femme, n'était-ce pas à cause de sa beauté ? Pourquoi donc continuez vos génuflexions après que la vieillesse en a fait un fantôme à menacer les vivants de la mort. Enfin, lorsque vous honoriez un homme spirituel, c'était à cause que, par la vivacité de son génie, il pénétrait une affaire mêlée et la débrouillait, qu'il défrayait par son bien-dire l'assemblée du plus haut cara, qu'il digérait les sciences d'une seule pensée, et que jamais une belle âme ne forma de plus violent désir que pour lui ressembler. Et cependant, vous lui continuez vos hommages quand ses organes usés rendent sa tête imbécile et pesante, et lorsqu'en compagnie, il ressemble plutôt par son silence la statue d'un dieu foyer qu'un homme capable de raison. Concluez par là, mon fils, qu'il vaut mieux que les jeunes gens soient pourvus du gouvernement des familles que les vieillards. Certes, vous seriez bien faible de croire qu'Hercule, Achille, Épaminondas, Alexandre et César, qui sont tous morts au-delà de 40 ans, fussent des personnes à qui on ne devait que des honneurs vulgaires, et qu'un vieux radoteur, parce que le soleil a 90 fois épié sa moisson, vous lui deviez de l'encens. Mais direz-vous, toutes les lois de notre monde font retentir avec soin ce respect qu'on doit aux vieillards. Il est vrai, mais aussi tous ceux qui ont introduit les lois ont été des vieillards, qui craignaient que les jeunes ne les dépossédassent justement de l'autorité qu'ils avaient extorquée. Et ont fait, comme les législateurs aux fausses religions, un mystère de ce qu'ils n'ont pu prouver. Oui, mais direz-vous, ce vieillard est mon père, et le ciel me promet une longue vie si je l'honore. Si votre père, ô mon fils, ne vous ordonne rien de contraire aux inspirations du Très-Haut, je vous l'avoue. Autrement, marchez sur le ventre du père qui vous engendra. Trépignez sur le sein de la mère qui vous conçut. Car de vous imaginer que ce lâche respect que des parents vicieux ont arraché de votre faiblesse soit tellement agréable au ciel qu'il en allonge pour cela vous fuser, je n'y vois guère d'apparence. Quoi ? Ce coup de chapeau dont vous chatouillez et nourrissez la superbe de votre père, crève-t-il un abcès que vous avez dans le côté? Répare-t-il votre humide radicale? Fait-il la cure d'une estocade à travers votre estomac? Vous casse-t-il une pierre dans la vessie? Si cela est, les médecins ont grand tort. Au lieu de potions infernales dont ils empestent la vie des hommes, qu'ils leur donnent, pour la petite vérole, 3 révérences, à jeun, 4 grands merci, après dîner, et 12 « Bonsoir, mon père et ma mère, avant que s'endormir. » Vous me répliquerez que, sans lui, vous ne seriez pas. Il est vrai, mais aussi lui-même, sans votre grand-père, n'aurait jamais été, ni votre grand-père sans votre bisaïeul, ni sans vous, votre père n'aurait pas de petit-fils. Lorsque la nature le mit au jour, c'était à condition de rendre ce qu'elle lui prêtait. Ainsi, quand il vous engendra, il ne vous donna rien, il s'acquitta. Encore, je voudrais bien savoir si vos parents songeaient à vous quand ils vous firent. Hélas, point du tout. Et toutefois, vous croyez leur être obligé d'un présent qu'ils vous ont fait sans y penser. Comment ? Parce que votre père fut si paillard qu'il ne put résister aux beaux yeux de je ne sais quelle créature, qu'il en fit le marché pour assouvir sa passion, et que de leur patrouillis vous fûtes le maçonnage, vous révérerez ce voluptueux comme un des 7 sages de Grèce. Quoi ? Parce que cet autre avare acheta les riches biens de sa femme par la façon d'un enfant ? Cet enfant ne lui doit parler qu'à genoux ? Ainsi, votre père fit bien d'être ribaud, et cet autre d'être chiche, car autrement, ni vous ni lui n'auriez jamais été. Mais je voudrais bien savoir, si quand il était certain que son pistolet eût pris un rat, s'il n'eût point tiré le coup. Juste Dieu, qu'on en fait à croire au peuple de votre monde. Vous ne tenez, ô mon fils, que le corps de votre architecte mortel, votre âme par des cieux, qu'il pouvait engainer aussi bien dans un autre fourreau. Votre père serait possible né votre fils, comme vous êtes né le sien. Que savez-vous même s'il ne vous a point empêché d'hériter d'un diadème ? Votre esprit était peut-être parti du ciel à dessein d'animer le roi des Romains au ventre de l'impératrice. En chemin, par hasard, il rencontra votre embryon. Pour abréger son voyage, il s'y logea. Non, non, Dieu ne vous eut point rayé du calcul qu'il avait fait des hommes quand votre père fut mort petit garçon. Mais qui sait si vous ne seriez point aujourd'hui l'ouvrage de quelque vaillant capitaine qui vous aurait associé à sa gloire comme à ses biens. Ainsi, peut-être, vous n'êtes non plus redevable à votre père de la vie qu'il vous a donnée que vous le seriez au pirate qui vous aurait mis à la chaîne, parce qu'il vous nourrirait. Et je veux même qu'il vous eût engendré roi. Un présent perd son mérite lorsqu'il est fait sans le choix de celui qui le reçoit. On donna la mort à César, on la donna pareillement à Cassius. Cependant, Cassius en est obligé à l'esclave dont il l'impétra, non pas César à ses meurtriers, parce qu'ils le forcèrent de la prendre. Votre père consulta-t-il votre volonté lorsqu'il embrassa votre mère? Vous demanda-t-il si vous trouviez bon de voir ce siècle-là ou d'en attendre un autre? Si vous vous contenteriez d'être le fils d'un sot, ou si vous auriez l'ambition de sortir d'un brave homme? Hélas, vous que l'affaire concernait tout seul, vous étiez le seul dont on ne prenait point l'avis. Peut-être qu'alors, si vous eussiez été enfermé autre part que dans la matrice des idées de la nature, ou que votre naissance eût été à votre option, vous auriez dit à la Parque « Ma chère demoiselle, prends le fuseau d'un autre. Il y a fort longtemps que je suis dans le rien, et j'aime mieux demeurer encore 100 ans à n'être pas que d'être aujourd'hui pour m'en repentir demain. » Cependant, il vous fallut passer par là. Vous eûtes beau piailler pour retourner à la longue et noire maison dont on vous arrachait, on faisait semblant de croire que vous demandiez à téter. Voilà, ô mon fils, à peu près les raisons qui sont cause du respect que les pères portent à leurs enfants. Je sais bien que j'ai penché du côté des enfants plus que la justice ne demande, et que j'ai parlé en leur faveur un peu contre ma conscience. Mais, voulant corriger cet insolent orgueil dont les pères bravent la faiblesse de leurs petits, et j'ai été obligée de faire comme ceux qui veulent redresser un arbre tortu. Ils le retortuent de l'autre côté, afin qu'il revienne également droit entre les deux contorsions. Ainsi, j'ai fait restituer au père la tyrannique déférence qu'ils avaient usurpée, et leur en est beaucoup dérobé qui leur appartenait, afin qu'une autre fois, ils se contentassent du leur. Je sais bien que j'ai choqué par cette apologie tous les vieillards, mais qu'ils se souviennent qu'ils sont fils auparavant que d'être père, et qu'il est impossible que je n'aie parlé fort à leur avantage, puisqu'ils n'ont pas été trouvés sous une pomme de chou. Mais enfin, quoi qu'il puisse arriver, quand mes ennemis se mettraient en bataille contre mes amis, je n'aurais que du bon, car j'ai servi tous les hommes et n'en ai desservi que la moitié. » À ces mots, il se tut, et le fils de notre hôte prit ainsi la parole. « Permettez-moi, lui dit-il, puisque je suis informé par votre soin de l'origine, de l'histoire, des coutumes et de la philosophie du monde de ce petit homme, que j'ajoute quelque chose à ce que vous avez dit, et que je prouve que les enfants ne sont point obligés à leur père de leur génération, parce que leur père était obligé en conscience de les engendrer. La philosophie de leur monde la plus étroite confesse qu'il est plus à souhaiter de mourir, à cause que pour mourir, il faut avoir vécu que de n'être point. Or, puisqu'en ne donnant pas l'être à ce rien, je le mets en un état pire que la mort, je suis plus coupable de ne le pas produire que de le tuer. Tu croirais, ô mon petit homme, avoir fait un parricide indigne de pardon si tu avais égorgé ton fils. Il serait énorme à la vérité. Cependant, il est bien plus exécrable de ne pas donner l'être à qui le peut recevoir. Car cet enfant, à qui tu ôtes la lumière, a toujours eu la satisfaction d'en jouir quelque temps. Encore, nous savons qu'il n'en est privé que pour peu de siècles. Mais ces 40 pauvres petits riens dont tu pouvais faire 40 bons soldats à ton roi, tu les empêches malicieusement de venir au jour et les laisses corrompre dans tes reins au hasard d'une apoplexie qui t'étouffera. Qu'on ne m'objecte point les beaux panégyriques de la virginité. Cet honneur n'est qu'une fumée, car enfin, tous ces respects dont le vulgaire l'idolâtre ne sont rien. Même entre vous autres que de conseils, mais de ne pas tuer, mais de ne pas faire son fils en ne le faisant point, plus malheureux qu'à mort, c'est le commandement. Pourquoi je m'étonne fort, vu que la continence au monde dont vous venez est tenue si préférable à la propagation charnelle, pourquoi Dieu ne vous a pas fait naître à la rosée du mois de mai comme les champignons, ou tout au moins comme les crocodiles du limon gras de la terre échauffé par le soleil? Cependant, il n'envoie point chez vous d'eunuques que par accident. Il n'arrache point les génitoires à vos moines, à vos prêtres, ni à vos cardinaux. Vous me direz que la nature les leur a donnés. Oui, mais il est le maître de la nature. Et s'il avait reconnu que ce morceau fût nuisible à leur salut, il aurait commandé de le couper, aussi bien que le prépuce aux Juifs dans l'ancienne loi. Mais ce sont des visions trop ridicules. Par votre foi, y a-t-il quelque place sur votre corps plus sacrée ou plus maudite l'une que l'autre? Pourquoi commettrais-je un péché quand je me touche par la pièce du milieu et non pas quand je touche mon oreille ou mon talon? Est-ce à cause qu'il y a du chatouillement? Je ne dois donc pas me purger au bassin, car cela ne se fait point sans quelque sorte de volupté. Ni les dévots ne doivent pas non plus s'élever à la contemplation de Dieu, car ils y goûtent un grand plaisir d'imagination. En vérité, je m'étonne, vu combien la religion de votre pays est contre nature et jalouse de tous les contentements des hommes, que vos prêtres n'ont fait un crime de se gratter, à cause de l'agréable douleur qu'on y sent. Avec tout cela, j'ai remarqué que la prévoyante nature a fait pencher tous les grands personnages, et vaillants et spirituels, aux délicatesses de l'amour. Témoins, Samson, David, Hercule, César, Hannibal, Charlemagne. Était-ce afin qu'ils se moissonnassent l'organe de ce plaisir d'un coup de serpe? Hélas, elle alla jusque sous un cuvier à débaucher Diogène, maigre, laid et pouilleux, et le contraindre de composer, du vent dont il soufflait les carottes, des soupirs à Laïs. Sans doute, elle en usa de la sorte pour l'appréhension qu'elle eut que les honnêtes gens ne manquassent au monde. Concluons de là que votre père était obligé, en conscience, de vous lâcher à la lumière. Et quand il penserait vous avoir beaucoup obligé de vous faire en se chatouillant, il ne vous a donné au fond que ce qu'un taureau banal donne au veau tous les jours 10 fois pour se réjouir. Vous avez tort, interrompit alors mon démon, de vouloir régenter la sagesse de Dieu. Il est vrai qu'il nous a défendu l'excès de ce plaisir, mais que savez-vous s'il ne l'a point voulu ainsi, afin que les difficultés que nous trouverions à combattre cette passion nous fissent mériter la gloire qu'il nous prépare? Mais que savez-vous si ce n'a point été pour aiguiser l'appétit par la défense? Mais que savez-vous s'il ne prévoyait point qu'abandonnant la jeunesse aux impétuosités de la chair, le coït trop fréquent énerverait leurs semences et marquerait la fin du monde aux arrière-neveux du premier homme? Mais que savez-vous s'il ne voulut point empêcher que la fertilité de la terre ne manquât aux besoins de tant d'affamés? Enfin, que savez-vous s'il ne l'a point voulu faire contre toute apparence de raison, afin de récompenser justement ceux qui, contre toute apparence de raison, se seront fiés en sa parole? Cette réponse ne satisfit pas ce que je crois le petit hôte, car il en hocha 2 ou 3 fois la tête. Mais notre commun précepteur se tut, parce que le repas était en impatience de s'envoler. Nous nous étendîmes donc sur des matelas fort mollets, couverts de grands tapis, où les fumées nous vinrent trouver comme autrefois devant l'hôtellerie. Un jeune serviteur prit le plus vieux de nos 2 philosophes pour le conduire dans une petite salle séparée et... « Revenez nous trouver ici !» nous cria mon précepteur, « aussitôt que vous aurez mangé !» Il nous le promit. Cette fantaisie de manger à part me donna la curiosité d'en demander la cause. « Il ne goûte point, me dit-on, de l'odeur de viande, ni même de celle des herbes, si elles ne sont mortes d'elles-mêmes, à cause qu'il les pense capables de douleur. » Je ne m'ébahis pas tant, répliquai-je, qu'ils s'abstiennent de la chair et de toutes choses qui ont une vie sensitive. Car en notre monde, les pythagoriciens et même quelques saints anachorètes ont usé de ce régime. Mais de n'oser, par exemple, couper un chou de peur de le blesser, cela me semble tout à fait risible. Et moi, répondit le démon, je trouve beaucoup d'apparence à son opinion. Car dites-moi, ce chou de vous parler, n'est-il pas autant créature de Dieu que vous? N'avez-vous pas également tous deux pour père et mère, Dieu et la privation? Dieu n'a-t-il pas eu, de toute éternité, son intellect occupé de sa naissance aussi bien que de la vôtre? Encore semble-t-il qu'il est pourvu plus nécessairement à celle du végétant que du raisonnable, puisqu'il a remis la génération d'un homme aux caprices de son père, qui pouvait, pour son plaisir, l'engendrer ou ne l'engendrer pas. Rigueur dont cependant il n'a pas voulu traiter avec le chou, car au lieu de remettre à la discrétion du père de germer le fils, comme s'il eût appréhendé davantage que la race des choux périt que celle des hommes, il les contraint, bon gré mal gré, de se donner l'être les uns aux autres. Et non pas ainsi que les hommes, qui, tout au plus, n'en seraient engendrés en leur vie qu'une 20aine. Ils en produisent, eux, des 400 000 par tête. De dire pourtant que Dieu a plus aimé l'homme que le chou, c'est que nous nous chatouillons pour nous faire rire. Étant incapable de passion, il ne saurait ni haïr ni aimer personne. Et s'il était susceptible d'amour, il aurait plutôt des tendresses pour ce chou que vous tenez, qu'il ne saurait l'offenser que pour cet homme dont il a déjà devant les yeux les injures qu'il lui doit faire. Ajoutez à cela qu'il ne saurait naître sans crime, étant une partie du premier homme qui le rendit coupable. Mais nous savons fort bien que le premier chou n'offensa point son créateur au paradis terrestre. Dira-t-on que nous sommes faits à l'image du souverain être et non pas les choux? Quand il serait vrai, nous avons, en souillant notre âme par où nous lui ressemblions, effacé cette ressemblance, puisqu'il n'y a rien de plus contraire à Dieu que le péché. Si donc notre âme n'est plus son portrait, nous ne lui ressemblons pas davantage par les mains, par les pieds, par la bouche, par le front et par les oreilles, que le chou par ses feuilles, par ses fleurs, par sa tige, par son trognon et par sa tête. Ne croyez-vous pas en vérité, si cette pauvre plante pouvait parler quand on la coupe, qu'elle nous dit « Homme, mon cher frère, que t'ai-je fait qui mérite la mort? Je ne crois que dans tes jardins, et l'on ne me trouve jamais en lieu sauvage où je vivrai en sécurité. Je dédaigne d'être l'ouvrage d'autres mains que les tiennes, mais à peine en suis-je sorti que pour y retourner. Je me lève de terre, je m'épanouis, je te tends les bras, je t'offre mes enfants en graines, et pour récompense de ma courtoisie, tu me fais trancher la tête. Voilà les discours que tiendrait ce chou s'il pouvait s'exprimer. Eh, comme à cause qu'il ne saurait se plaindre, est-ce à dire que nous pouvons justement lui faire tout le mal qu'il ne saurait empêcher? Si je trouve un misérable lié, puis-je sans crime le tuer à cause qu'il ne peut se défendre? Au contraire, sa faiblesse aggraverait ma cruauté. Car combien que cette malheureuse créature soit pauvre et soit dénuée de tous nos avantages, elle ne mérite pas la mort pour cela. Quoi? De tous les biens de l'être, elle n'a que celui de végéter et nous le lui arrachons? Le péché de massacrer un homme n'est pas si grand, parce qu'un jour, il revivra, que de couper un chou et lui ôter la vie, à lui qui n'en a point d'autre à espérer. Vous anéantissez l'âme d'un chou en le faisant mourir, mais en tuant un homme, vous ne faites que changer son domicile. Et je dis bien plus, puisque Dieu, le Père commun de toutes choses, chérit également ses ouvrages, n'est-il pas raisonnable qu'il ait partagé ses bienfaits également entre nous et les plantes? Il est vrai que nous naquîmes les premiers, mais dans la famille de Dieu, il n'y a point de droit d'aînesse. Si donc, les choux n'eurent point leur part avec nous du fief de l'immortalité, ils furent sans doute avantagés de quelque autre qui, par sa grandeur, récompense sa brièveté. C'est peut-être un intellect universel, une connaissance parfaite de toutes les choses dans leur cause, et c'est peut-être aussi pour cela que ce sage moteur ne leur a point taillé d'organes semblables aux nôtres, qui n'ont pour tout effet qu'un simple raisonnement faible et souvent trompeur, mais d'autres, plus ingénieusement travaillés, plus forts et plus nombreux, qui leur servent à l'opération de leur spéculatif entretien. Vous me demanderez peut-être ce qu'ils nous ont jamais communiqué de ces grandes pensées. Mais dites-moi, que nous ont jamais enseigné les anges non plus qu'eux? Comme il n'y a point de proportion, de rapport, d'harmonie entre les facultés imbéciles de l'homme et celles de ces divines créatures, ces choux intellectuels auraient beau s'efforcer de nous faire comprendre la cause occulte de tous les événements merveilleux, il nous manque des sens capables de recevoir ces hautes espèces. Moïse, le plus grand de tous les philosophes, puisqu'il puisait à ce que vous dites la connaissance de la nature dans la source de la nature même, signifiait cette vérité lorsqu'il parla de l'ordre de science. Il voulait nous enseigner sous cette énigme que les plantes possèdent privativement la philosophie parfaite. Souvenez-vous donc, ô, de tous les animaux les plus superbes, qu'encore qu'un chou que vous coupez ne dise mot, il n'en pense pas moins. Mais le pauvre végétant n'a pas des organes propres à hurler comme nous. Il n'en a pas pour frétiller ni pour pleurer. Il en a toutefois, par lesquels il se plaint du tour que vous lui faites, par lesquels il attire sur vous la vengeance du ciel. Que si vous me demandez comment je sais que les choux ont ces belles pensées, je vous demande comment vous savez qu'ils ne les ont point, et que tels, par exemple, à votre imitation, ne disent pas le soir en s'enfermant. « Je suis, monsieur, le chou frisé, votre très humble serviteur, Chou Cabus. »